Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court. Tous les soirs, une heure avec un ou une artiste. Ce soir, Théo Mercier.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richaud, avec Théo Mercier.
Je n'ai jamais voulu savoir ce que l'on entendait vraiment lorsque l'on colle son oreille à un grand coquillage. Le son de la mer que l'on croit y reconnaître est une illusion si parfaitement construite par notre cerveau, si à propos, si kitsch en fait, que je préfère la garder intouchée du savoir. Ça a le charme des choses bien faites. On dit c'est bien, ça ressemble. Et c'est souvent ce que l'on réserve aux animaux de compagnie, des trucs en plastique qui ont l'apparence d'os à ronger, des trucs en coton qui ont l'apparence de souris, des semblants de rochers pour les singes ou les chouettes, pour y dormir ou s'y cacher. Vous investissez le musée de la chasse et de la nature à Paris, et c'est la deuxième fois, Théo Mercier, avec beaucoup de totems, quelques Vénus et quelques tabous. Every stone should cry, c'est le titre de votre intervention, chaque pierre devrait pleurer, pour une traduction rapide, et faute de percevoir leurs sanglots réels, on y entend parfois des choses qui roulent. Bonsoir et bienvenue, Théo Mercier.
Bonsoir Marie.
Je dis que c'est la deuxième fois, la première fois c'était quand ?
C'était il y a exactement 10 ans, c'était ma première exposition, une de mes premières expositions à Paris, voire la première. Une invitation de Claude Dantonès, qui est toujours l'actuel directeur. Donc c'était un peu une date anniversaire. J'occupais il y a 10 ans la salle du haut du musée, et cette année tout le reste du musée.
Ça ressemblait à quoi, juste pour avoir quelques souvenirs?
Ça ressemblait à une sorte d'exposition de foire, peut-être de foire dans le sens forain du terme. À l'époque, je le qualifiais de freak show écologique. Il y avait l'envie de venir voir, de montrer le monstre de poils, le monstre de mousse, c'est une exposition complètement plongée dans le noir, avec aussi une bande son, des lumières douches, des rideaux, quelque chose de très mise en scène aussi.
Et ça dialoguait comment avec ce musée de la chasse et de la nature qu'il faut peut-être présenter aux auditrices et auditeurs qui ne connaissent pas? On y trouve des armes dans ce musée, on y trouve des animaux empaillés, on y trouve des chaises avec des chardons dessus, on y trouve des tapisseries, on y trouve quoi d'autre?
On y trouve des légendes, on y trouve des mythes, on y trouve des mystères, des choses cachées, des mensonges, des simulacres, des apôtres, des licornes, et beaucoup d'armes, ouais. Et de têtes coupées. Ça, c'était inévitable.
Et du coup, vous aviez décidé de dialoguer sur quel territoire avec cette collection-là à l'époque?
C'est un musée aussi avant toute curiosité. Et donc c'était peut-être avec avec l'aspect curieux de la collection et de montrer la rareté, l'inconnu. Il y avait quelque chose d'un peu effrayant aussi. C'est un musée qui a une part assez maléfique, ce musée.
Du coup, le curieux freak aussi.
Ouais,
ouais,
voilà, ce curieux-là. Et voilà. Et après, on était dans un registre beaucoup moins précieux, même. Pour dire carrément vulgaire par rapport au restant du musée, et dans un dispositif qu'on aurait pu imaginer celui d'une foire, celui qui vient d'être monté la veille et qui sera démonté à la fin de la semaine, ou ces expositions bientôt dans votre ville, l'exposition de reptiles incroyables.
On était assez loin de la parfaite moquette bleu clair,
voilà,
qui orne.
On était assez loin de
la
ça.
Première salle de votre intervention.
Ouais. Mais on était déjà dans le théâtre, ouais, dans le même, peut-être dans dans une autre forme de spectacle qu'est celui qui est donné dans le restaurant du musée. Mais l'idée du décor et du théâtre était déjà existante dans cette exposition.
J'ai fait une traduction rapide, je suis sûre que vous allez faire mieux que moi pour le titre que vous avez choisi et nous dire un peu comment il s'est imposé et quelle manière il a de raconter ce que vous montrez. Vous montrez beaucoup de choses.
Oui, oui, c'est assez généreux, mais je suis dans mon travail, je pense, de manière générale, j'essaie d'être le plus généreux possible. Après, aussi pour exister dans ce musée, je pense qu'il faut être relativement généreux et attentif à ce qui se passe dans le restant de ce lieu, qui est vraiment un lieu de profusion et même qui offre un rapport à l'objet assez unique, celui d'une sorte d'accessibilité. On peut tout manipuler, on a l'impression qu'on peut se prélasser dans ces gros fauteuils assis sur un chardon. Il y a un rapport au musée un petit peu différent que celui qui est proposé habituellement. Et qui fonctionne par la générosité du propos et de la variété des choses qui sont montrées. En fait, si on veut vraiment regarder tout ce qu'il y a dans ce musée, c'est un petit musée mais qui propose un paysage très très large. Le titre c'est la première c'est pas la première fois que je travaille comme ça, mais c'est la première c'est la pierre de la première œuvre, la pierre la première œuvre de cette exposition. J'ai commencé avec rien, en me disant que je voulais proposer que des nouvelles productions, donc partir de zéro. Bon, je présente dans le musée au final peut-être deux trois pièces anciennes. Du coup, j'ai cherché un titre
comme un début.
Ouais. Comme un début, et j'étais bien obligé de trouver un titre pour des soucis de communication. Du coup, j'ai cherché ce titre comme j'aurais cherché le titre d'une chanson. Plus. Et c'est pas la première fois que je travaille comme ça. Je recherche souvent dans mes titres d'exposition une musicalité et de créer déjà un... Je le considère vraiment comme la première œuvre de l'exposition. Et ce rapport du minéral et de l'intime et de la froideur, de la lourdeur et de l'émotion, de la rapidité d'une larme sur une joue ou d'un sentiment très fort, comme ça, très fugace, et de l'éternité de la pierre. Il y avait en tout cas suffisamment de contradictions dans ce titre pour pouvoir commencer un travail.
Mais sauf que ce ne sont pas deux pôles qui sont complètement tenus éloignés, puisqu'il y a ce verbe-là, « should », et que ce n'est pas vraiment des pierres qui pleurent, ce n'est pas vraiment des pierres qui ne pleurent pas, c'est des pierres qui devraient pleurer.
Qui devraient pleurer. Avec ce devoir, il y a sa place l'homme entre, face à la pierre, et cette question de l'anthropocentrisme, elle m'intéressait pour cette exposition. Et cette question-là du rapport de l'homme et de la nature, qui est pas enfin, l'homme ne vit plus avec la nature, il vit juste avec une idée de la nature, une idée qu'il déforme, reforme, transforme à sa guise. Et j'aimais qu'il y ait comme ça cette sorte d'invective de l'homme sur la pierre aussi.
Genre, tu n'arrives pas à le faire alors que tu devrais le faire.
Oui, tu devrais le faire.
Et ça aussi, en plus que tout ce que je te demande.
Oui, de tout ce que je
pleure
te demande.
Pleure un peu.
Oui, oui, oui. Et une sorte de... Le dernier degré de l'humanisation du monde. Que les pierres pleurent. Quoi. Les pierres naturelles comme les pierres taillées. Les pierres taillées, elles ont peut-être déjà commencé, mais...
Alors que tout paraît complètement immobile, ça grince et ça roule encore, Théo Mercier, dans la première salle de votre intervention au Musée de la Chasse et de la Nature. C'est personnellement ce qui m'a mis en mouvement. Je cherchais d'où ça venait. Je cherchais qu'est-ce qui vivait dans tout ce qui me paraissait mort, qui était présenté là. Est-ce que vous pouvez nous parler du petit rituel que l'on doit accomplir pour rentrer dans la première salle?
Celui des chaussons, vous parlez. Donc cette première salle, un sol de moquette gris perle assez soyeux, entre une belle moquette et une moquette un peu bas de gamme. Et du coup, bon, pour ne pas transformer cette salle en bac à litière géant pendant les deux mois d'exposition, les visiteurs doivent enfiler des petits chaussons. Je sais pas, d'orthodontiste ou des petits chaussons
de protection, quoi.
De protection médicale un petit peu. Mais c'est vrai que c'est une manière de partir du moment où ils enfilent ce petit chausson et ils se baissent légèrement pour passer au travers de cette porte que j'aurais aimé beaucoup plus petite qu'elle ne l'est. Il y a déjà une première étape de transformation du visiteur, et la symbolique de la porte est très très, prend tout son sens déjà quand l'aspect du visiteur a changé juste par le fait qu'il ait mis ses petits chaussons ridicules, et d'un seul coup il devient véritablement acteur de cette exposition environnement, et plus par le simple fait qu'il ait des petits chaussons.
Il y a des lumières de néon, il y a quelque chose qui est à la fois doux et assez froid en fait. Là, à l'instant, je me dis que c'est presque aussi des chaussons qu'on porte à la morgue, j'imagine. Donc, ouais. Ce genre de combinaison très aseptisée, très hygiéniste. Ce qui dit aussi, ce qui nous met aussi dans une certaine disposition pour aborder tous ces objets qui nous rappellent, de près ou de loin, des corps. Quels qu'ils soient, des corps animaux ou des corps humains. Une des premières choses qui nous accueille sont des gros coquillages, d'où sortent des mains en silicone. Des fausses mains.
Des prothèses, ouais.
Et on s'approche, elles sont, y a des rides, il y a quelques poils, quelque chose qui vient nous attraper pour de vrai et pour de faux. C'est pour ça que je commençais l'émission en parlant de justement ce son-là, ce faux son de la mer qu'on croit entendre quand on pose son oreille contre un coquillage. Quel est votre rapport au son, qui est bien plus faible que ce qu'on vient de faire entendre, c'était juste pour que ce soit très audible pour nos auditrices et nos auditeurs, dans cette salle, Théo Mercier?
Dans cette salle, j'ai travaillé avec un ami compositeur qui s'appelle Pierre Desprats, avec lequel on avait travaillé sur la pièce de danse précédente, Affordable Solution for Better Living. Et je l'ai invité à composer à la, c'est pas le chant des baleines, mais c'est plutôt les pleurs des sculptures. Et vous parliez tout à l'heure de la question de la mise en mouvement, qui est l'une de mes préoccupations principales. Moi, j'ai pas envie d'anthropomorphiser la nature en permanence, mais en tout cas l'objet, oui, et c'est vrai que c'est quelque chose que je cherche à travers mon travail de plasticien, comme celui de metteur en scène. Et une des astuces que j'ai trouvées cette année pour humaniser mes sculptures, c'est de leur donner un son qui serait celui de leur mouvement. On a enregistré avec Pierre la matière même de ces sculptures métalliques, toutes leurs composantes, le bruit de leur plateau qui tourne, de leur chaîne qui pendule. Et au milieu de toutes ces sculptures, il y en a une qui est pour de vrai animée sur un socle qui ne fait aucun bruit. Mais en fait, en regardant le socle, du coup, on a vraiment l'impression qu'il est mal huilé. Même ça, l'objet qu'on voit véritablement en mouvement, c'est peut-être celui qui fait le moins de bruit. Il est plus silencieux que ceux qui ne font aucun son, mais ceux qui sont statiques.
Est-ce que vous pouvez parler des objets que vous réunissez là, dans cette première salle, Théo Mercier?
Ouais. Et pour juste pour finir sur mon rapport au son, il est très différent. Moi j'ai un rapport à la musique étant très proche de beaucoup. J'ai beaucoup d'amis musiciens et je pense que j'aurais aimé être rockstar plus que plasticien ou
rockstar n'est pas nécessairement musicien.
Oui, mais un rockstar.
Oui, c'est rockstar. Musicien pour être musicien,
non.
Musicien pour être rockstar.
Ouais.
Peut-être que vous pouvez être plasticien metteur en scène rockstar.
J'espère.
Je sais pas, ça peut être un but aussi.
J'espère, en tout cas, j'y travaille.
Okay.
Mais et du coup, c'est vrai qu'en tout cas, j'ai toujours trouvé une manière d'inviter la musique dans mon travail ou de collaborer moi en tant que plasticien en faisant des pochettes d'albums pour des amis musiciens. J'aime que le travail soit dans la musique d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas du tout pour ça que que la musique est présente dans cette exposition. Bon, c'était une petite diversion. Revenons aux objets. Qu'est-ce que c'est que ces objets qui sont...
Tu en peux en décrire quelques-uns, en tout cas.
Quand on rentre dans cette salle, il y a sur le mur gauche et sur le mur droit deux grandes phrases d'objets, deux sortes d'horizons rébus, qui sont des carambolages, des chocs de sémantiques et formels d'objets. Alors, c'est vraiment composé comme, encore une fois, comme des partitions musicales. Donc, il y a une étagère de 15 mètres, je crois, et l'autre de 17 mètres, en inox, à hauteur d'épaule.
Ouais.
Assez haute, en fait, c'est pas forcément un rapport habituel à l'objet. Ça le rend très, très accessible. Et j'ai imaginé... ces deux collections qui s'appellent Encyclopédie de la nature domestique comme deux phrases musicales et qui seraient composées d'idées de la nature, de réplicas, de fantasmes, de prothèses, de choses lourdes, de choses creuses, de choses précieuses, de choses vulgaires, d'objets appartenant à ma propre collection, quelques-uns appartenant à la collection du musée, d'autres provenant de l'animalerie du coin. Donc il y a une sorte de mise à plat de la valeur des choses. D'une certaine manière, c'est aussi une sorte de planche anatomique de mon travail. Dans ces étagères, on voit tout ce qui compose depuis quelques années mes sculptures. Ça raconte aussi que l'artiste n'invente pas grand-chose, se nourrit du monde d'une certaine manière. Et là, ce que je vous présente sur ces étalages, c'est la nourriture de mes sculptures. C'est parce qu'il y a une question, il y a une dimension étalage en fait. Aussi.
Oui, d'ailleurs, il faut peut-être différencier ce qui se trouve sur ces deux grandes phrases étagères et ce qui se trouve au milieu et dans quoi nous circulons. Si les deux grandes phrases sont le vocabulaire, on a une forme quand même de réalisation, de plusieurs réalisations au centre de la pièce.
Au milieu sont les phrases, au milieu c'est un langage plus composé, et sur les deux côtés, le côté gauche et le côté droit, sont effectivement une suite de mots qui sont dans le mauvais sens, parfois dans le bon sens, qui composent un début de phrase, et puis qui d'un seul... Effectivement, au centre, le centre de c'est là que vivent les sculptures, vraiment. Et on a en arrière-plan, du coup, avec ces objets... la nourriture et les éléments qui les composent.
Mais ça différerait de la seule exposition d'un atelier, Théo Mercier. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'en fait, ce premier espace-là, il choisit pas tant entre montrer une sculpture réalisée et en même temps montrer aussi un espace organisé, c'est-à-dire une mise en scène, une installation, une exposition, comme si là aussi c'était très aplati. Comme si on était à la fois, on rentrait à la fois dans un espace d'installation. Quand même, on produit l'art contemporain, ouais. Mais en même temps un espace d'exposition de sculpture et en même temps un discours et du son, mais pas un atelier. Vous voyez la nuance ou pas? C'est pas un atelier, on n'est pas dans un atelier.
C'est plus un laboratoire qu'un atelier, mais en même temps je travaille aussi comme ça. Moi, il y a une grande partie de mon travail qui est celui de regarder, d'organiser. et mon atelier, beaucoup plus accueillant que l'exposition, mais on n'en est pas si loin non plus. Je vis dans, et je travaille dans, dans des espaces très organisés, où chaque... j'ai moi-même des collections d'objets qui m'entourent dans l'espace de l'atelier, et elles sont disposées un peu de cette manière-là. J'ai besoin que toutes les formes soient en permanence, les formes qui m'entourent soient en permanence lisibles. Et je travaille vraiment, la silhouette, le contour des choses m'intéresse beaucoup. Et pour que l'objet m'amène à une vision, à une envie, j'ai besoin d'en voir vraiment ses contours.
Comme si on pouvait presque détourer le monde sur Photoshop, quoi.
Ouais.
Tout est hyper clair.
Tout est hyper clair.
Et en même temps, vous passez votre temps à brouiller les pistes, puisque une fois que tout est détouré, ben, un meuble pour chat n'est plus exactement lisible comme ça, Théo Mathieu.
Après, la matière peut être pourrie de l'intérieur et avoir un contour très, très net. J'ai fait des études de production industrielle et mon premier rapport à l'objet est celui du design industriel. Et c'est peut-être quelque chose qu'on ressent aussi là. Mais cette question de la chose dessinée, même de la chose photogénique aussi, est très... toutes mes sculptures sont photogéniques. Bon, faut pas être pour les bons photographes, mais c'est vrai que cette préoccupation du regard, de la qualité de regard, mon propre regard et celui de l'audience, en sachant que les gens maintenant regardent de plus en plus aussi par le prisme du téléphone. Enfin, tout ça existe dans mon travail.
Et vous préoccupe.
Et me préoccupe complètement.
Savoir, par exemple, si votre exposition peut être visible par les photos qu'en auront fait des visiteurs sur un smartphone, ça vous préoccupe,
ça me préoccupe complètement.
Depuis toujours ?
Bah, depuis que c'est devenu voilà. Moi, j'ai jamais eu aucun réseau social. Par contre, donc aussi parce que je sais que c'est une image qui va complètement m'échapper, que moi je vais pas diffuser d'images, j'ai jamais eu d'Instagram, de fait que j'en ai jamais eu.
Et du coup. Par contre, ça vous intéresse de savoir que vos propres sculptures circulent par ce biais d'images diffusées sur les réseaux?
Oui, parce que je suis très intéressé par le monde contemporain et je suis quelqu'un qui aime le monde, donc si le monde va. Voilà, je suis pas forcément d'accord. Enfin, moi, je me positionne en tant que personne, en tant qu'artiste, mais je respecte le choix des autres. Et il est très important depuis le début, la question du public est centrale dans mon travail et dans ma production, autant dans ma production de metteur en scène que celle de plasticien. Quand je fais il y a 10 ans une de mes premières œuvres qui étaient très photographiées, très reproduites, qui était le solitaire, qui était un grand personnage en spaghetti cuit, avec deux grands yeux bleus, assis comme ça sur une chaise, beaucoup trop petite pour lui, qui l'englobe complètement, qui l'avale complètement avec son corps et sa matière. J'ai créé une œuvre qui apportait beaucoup pour lequel le regardeur avait immédiatement beaucoup d'empathie, avait envie de s'en emparer, de la toucher, d'être photographié avec, et ça c'est quelque chose qui a été, mes premières œuvres étaient vraiment faites, avaient envoyé ces signaux de caresse, de regard, d'amour, de rejet, de quelque chose qui est très qui est de l'ordre du rapport humain, en fait, presque.
C'est marrant que vous disiez ça, parce que moi, j'étais très surprise de la récurrence avec laquelle j'ai été en plein après-midi, un jour de pleine semaine, enfin, c'était vraiment tout sauf un vernissage, ouais. Avec laquelle des dames, par exemple, se photographiaient dans votre expo, avec vos œuvres, ou dans vos œuvres, ou à côté de vos œuvres. J'étais stupéfaite de ça. Vous dites, c'est un peu intentionnel.
C'est, ça l'est complètement. Enfin, c'est vraiment... Et ma manière de penser les accrochages, de penser la lumière, va aussi dans ce sens-là. Et la qualité de rapport et de regard entre le petit objet que vous allez voir sur l'étagère et l'accrochage plus spectaculaire est très pensé. Et je pense que c'est vraiment mon geste d'artiste, la partie peut-être la plus intéressante de mon travail depuis quelques années.
Le parcours qui mène quelqu'un ou quelqu'une à poser à côté d'un sexe en marbre ou en pierre ou à côté d'un coquillage avec une main en silicone.
Oui, voilà, la question de la photo, mais même la question du temps de regard et de la distance de regard. Mais ça, je pense que c'est vraiment mon métier de metteur en scène qui m'a fait envisager la sculpture différemment depuis quelques années. Et cette question du temps, en fait, du temps de regard et de la distance de regard. Combien de temps on regarde une sculpture? Qui regarde combien de temps une sculpture? À quelle distance? Est-ce qu'on la regarde de très près? Est-ce qu'on regarde l'exposition comme un ensemble? Par exemple, au musée de la chasse, la plupart des gens, l'œuvre, c'est le musée de la chasse. Personne ne vient voir un fusil. On va voir le musée. C'est un musée œuvre. Est-ce que, quand on arrive dans cette salle, j'ai besoin qu'il y ait toutes ces échelles de regard? Je travaille sur la première vision, qui est une vision globale, celle du paysage. Puis après, celle, un rapport presque humain à humain avec ces arbres à chat qui sont d'un seul coup, qui deviennent des véritables personnages, qui sont en plus, qui empruntent des organes génitaux reproduits, des fleuves. D'un seul coup, c'est vraiment des face-à-face, des vraies rencontres. Puis ces grands parcours horizontaux que les gens, je regarde beaucoup de gens, suivent ces grandes phrases mot à mot, et les regardent, et ça rythme leur regard. Puis ces coquillages où les gens s'approchent de très près, sont très intrigués par le bienfait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, ils savent très bien que c'est faux, mais cette question, même du vrai, du faux, en fait, implique des qualités de regard et des distances de regard très, très spécifiques. Quand les gens se posent la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ils ont envie de toucher, ils ont envie d'aller très près. Et
ça vaut aussi pour l'énorme pierre suspendue dans une autre salle du musée.
Ouais.
J'avoue que j'ai un peu soufflé pour savoir si elle était très légère.
Voilà.
On a finalement qu'un seul exemple de société où il n'y ait pas eu d'objet. Finalement, ce sont des sociétés très anciennes de chasseurs, où on vivait de la chasse et de la collecte, etc., et où il n'y avait même pas d'outils, ou très très peu, où on abandonnait les objets. Et on a soutenu qu'au fond, ces sociétés-là étaient des sociétés d'abondance, c'était les véritables sociétés d'abondance, c'est-à-dire où l'objet n'avait pas pour fonction de compenser un manque. Alors, on peut admettre que peut-être dans une société, une véritable société d'abondance, effectivement, il n'y aura plus que des fonctions et qui seront si bien automatisées ou si bien socialisées que l'objet gadget, enfin celui qu'on peut isoler et classer, n'existera plus. Mais franchement, comment le dire? Comment ne pas supposer que les gens aient quand même besoin d'autre chose? On le voit dans la mesure, par exemple, au fur et à mesure que les fonctions se modernisent et par la technologie font disparaître un grand nombre d'objets, on voit disparaître des catégories entières d'objets, mais au fond, on voit réapparaître en même temps, par exemple, toute une catégorie d'objets anciens, un monde total d'objets anciens qui vient déferler sur ce monde soi-disant fonctionnel. Il y a donc bien quelque chose qui manque quelque part pour que on voit ressurgir comme ça l'objet comme besoin.
L'objet, le manque et le besoin, on est il y a pile presque 50 ans, 1968, c'est Jean Baudrillard qui participe à un débat sur l'avenir des objets au Musée des Arts Décoratifs à Paris. On pourrait reprendre ce qu'il dit là et l'appliquer 50 ans plus tard avec assez peu de nuances, Théo Mercier.
Assez peu,
ouais. Ouais, vous disiez tout à l'heure que votre propre atelier est peuplé d'objets, qu'ils ont des raisons d'être presque en fait. Si on se rappelle de ce que vous disiez au début de l'entretien, il y a des objets dans vos ateliers qui ont des raisons d'être, tout comme dans l'intervention que vous faites au Musée de la Chasse et de la Nature. C'est des objets que vous recueillez, que vous collectionnez, que vous trouvez, avant qu'ils deviennent, pour certains, des sculptures. Vous avez quoi comme rapport avec eux?
C'est très troublant, l'extrait, les archives que vous venez de passer. Parce qu'effectivement, c'est dans ce qui... J'ai dit à propos de mon travail à peu près tout ce qu'il a dit. J'ai tout dit en moins bien, mais au fil des années, c'est vrai. Dans chaque phrase, je retrouve une série, une préoccupation qui traverse mon travail depuis quelques années.
Mais sur l'abondance, par exemple.
Sur l'abondance, sur la question du manque du monde. Sur la question de l'objet, de l'oubli, à quel moment un objet disparaît, qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte du monde quand un objet comme un enchaîné, une tour enchaînée, envahit tous nos appartements pendant 30 ans et puis d'un seul coup on le retrouve sur tous les trottoirs de Paris, celui-ci comme plein d'autres, à quel moment un objet, un silex biphase se retrouve dans une vitrine protégée et alors qu'un enchaîné se retrouve sur le trottoir. Enfin, ça raconte beaucoup de choses de nos sociétés, de nos vies, en fait, de nos vies d'hommes. Et c'est vrai que cette question de histoire d'homme, histoire d'objet, moi, me fascine complètement.
Ça veut dire quoi quand vous dites le manque du monde? C'est intéressant. Il dit ça, lui aussi, une sorte d'abondance de l'objet qui viendrait dialoguer avec le manque du monde ou un manque plus existentiel de l'humain, d'ailleurs.
Quand j'ai commencé ma pratique de sculpteur, je pensais que mon rôle d'artiste allait être celui de combler le monde de ses manques.
Et de ses manques, genre presque plastiques.
De ses manques plastiques, et c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai commencé par créer des œuvres complètement faites de toutes pièces, dans des matériaux qui donnaient l'illusion d'être des matériaux, d'une certaine manière, un peu inédits, et de créer vraiment des choses qui n'existaient pas avant. Je pensais que c'était vraiment mon rôle d'artiste. Et puis je me suis rendu compte que...
Des bonhommes en spaghettis, par exemple.
Par exemple, comme... voilà.
Oui. Non, c'est un bon exemple.
Mais voilà, des bonhommes en spaghettis, effectivement. Et puis, en fait, très vite, Et très vite, je me suis rendu compte à quel point je n'inventais pas et j'étais un artiste qui me nourrissait du monde. J'avais envie de sortir, en fait, d'une certaine manière de mon regard d'artiste, d'être enfermé juste dans mon imaginaire et de venir vraiment embrasser le monde. Plus que de rester dans mon monde intérieur pour essayer de proposer quelque chose que le vaste monde n'avait encore jamais vu, qui était celui, en fait, ce qui vivait à l'intérieur de moi. Et en fait, je me suis rendu compte de ce qui m'intéressait, c'était plutôt ce qui m'entourait. Et j'ai eu envie de proposer une œuvre qui embrassait le monde et la production.
Et en le récoltant,
et d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, justement, le monde ne manque de rien, il y a tout. Ce qu'il manque peut-être, c'est la manière de le regarder. Et en fait, on n'y a pas besoin de fabriquer des nouvelles choses. Il y a juste besoin de fabriquer des nouveaux regards et des nouvelles manières de penser les objets, de les regarder, de les fantasmer.
Est-ce que ce nouveau regard à produire, Thomas Mercier, passe par des nouvelles façons de les agencer? On a parlé de la salle du bain, on peut un peu monter dans les étages du musée de la chasse et de la nature à Paris et dire ces choses empilées qui donnent ce que j'ai beaucoup vu, moi, comme des sortes de Vénus ou des totems et qui, d'un seul coup, font dialoguer autrement une jarre, une poterie, une boîte d'œufs, des cylindres, des sphères. Comme si, là aussi, c'était d'autres phrases, quoi.
Dans la salle du haut, elle raconte un peu une autre partie de mon travail, qui est celle de la question du temps, enfin plutôt la question des temps. Et par exemple, dans cette salle dont vous parlez, qui est une sorte de salle annonciatrice d'un désastre à venir, il y a d'ailleurs une pièce qui s'appelle la mécanique du désastre. Donc j'ai travaillé, c'est un ensemble de sculptures qui sont principalement des empilements et qui mettent d'une certaine manière en scène des fictions de catastrophes qui sont principalement des chutes.
L'une des catastrophes, c'est de très grandes boîtes d'œufs qui menacent peut-être d'être écrasées. Mais sauf qu'en fait, on se dit aussi qu'il y a peut-être un équilibre savant qui fait qu'elles ne seront jamais écrasées, ces boîtes, je ne sais pas. Ou dans une autre salle, une catastrophe à venir, c'était une sorte de fiction de très très lourdes pierres tenues par un cordage et une poulie qui menacent de casser ce qu'il y a en dessous.
Une collection d'œufs, ouais.
À chaque fois, il est question d'un truc qui va casser, mais nous, on n'y assiste pas.
En fait, il y a cette idée que le visiteur soit potentiellement le dernier regardeur. Quand on rencontre cette œuvre, il y a cet instant ultime, qui est cette rencontre. J'ai toujours envie de raconter cette fiction que vous êtes peut-être le dernier visiteur de ce musée ou le dernier regardeur de cette œuvre. Et la question de la précarité, de nos vies, de ma vie d'artiste, de celle de l'œuvre d'art, de nos histoires d'amour, de nos villes, de nos vies, parcourent l'ensemble de l'œuvre. On peut les appeler des totems, effectivement, qui sont composés de jars 17e, 18e siècle, pour certaines très précieuses, qui sont jonchées d'une pierre, souvent fausse, et qui reposent sur des plaquettes d'œufs. Sur lesquels sont inscrites toutes les petites leurs petites dates de péremption. Donc on traverse dans une même colonne, dans une verticalité comme ça, plusieurs strates du temps, un temps très fragile qui est celui qui va être périmé dans 3 semaines, qui est celui de la coquille d'œuf, un temps qui est plus long, qui est celui de l'objet protégé dans le musée, qui était une jarre à huile il y a 3 siècles et qui devait être acheté sur un marché en Italie, et qui se retrouve là protégé dans une vitrine de musée, celui du tournage de cinéma, qui est cette fausse pierre en polystyrène qui va finir à la benne juste après, cette question de tous les temps. En bas, je mets les choses à plat en suivant une grande ligne d'horizon. Là, je travaille plus à la manière de strates, à la manière d'un archéologue aussi qui raconte sa propre archéologie des temps, qui suivrait une sorte de d'horloge folle du temps qui irait de l'avant comme de l'arrière. C'est aussi pour ça qu'il y a une grande présence des pneus qui sont des objets très symboliques pour moi qui vont en avant comme en arrière, toujours en laissant une trace.
Et qui sont parfois suspendus dans des parcs de zoos pour que des animaux y jouent.
Et qui sont très souvent, voilà, qui deviennent pour moi des sortes de médaillons du temps. Mais c'est vrai qu'ayant assisté aussi à des événements très marquants comme la chute de Palmyre, de Mossoul, ou plus récemment, d'une autre manière, celle de Notre-Dame. Et c'est vrai que moi, c'est cette question de la permanence et de l'obsolescence me touche énormément. Et je suis très sensible à la fragilité des choses.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Théo Mercier.
Je suis pas faite pour l'aide au-delà et l'aide est faite. J'ai un chagrin.
C'est une des premières choses que j'ai marquées sur mon carnet en traversant votre exposition Théo Mercier au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. C'est ce titre-là. J'avais oublié que c'était Corinne Charby qui le chantait. Boule de flipper, parce que je sais pas, j'arrêtais pas d'entendre depuis cette première salle des trucs qui roulaient, des trucs qui grinçaient. Et j'arrêtais pas de voir des ronds aussi. J'arrêtais pas de voir des boules, des cylindres, des pneus, enfin des choses qui roulent en effet. Et d'entendre des gens pleurer. Parce que si les pierres ne pleurent pas, les gens le font. Et donc aussi de traverser cette idée-là, beaucoup plus sentimentale de votre travail, beaucoup plus sentimentale que ce qu'on a pu évoquer avant. Ouais, sentimentale, c'est vraiment le mot qui vient. Juste avant la chanson, vous disiez « je suis sensible à la fragilité des choses ». Et j'ai l'impression que c'est aussi une exposition qui dit ça. Qui dit histoire d'amour, histoire de naissance, histoire de rupture. Histoire sentimentale.
Oui. Histoire d'amour toujours, oui. Oui. Je ne sais pas quoi dire de plus.
Non, mais est-ce qu'on a raison de sentir ça? Est-ce qu'on a raison de, au milieu de tous ces objets, au milieu de ce qu'on qualifie très souvent d'inanimé, en fait, d'y voir, je ne sais pas, des histoires comme ça. Plein d'histoires, quoi.
Ouais. Nos histoires me passionnent. Effectivement, il y a dans cette tension dramatique, en fait, chacun y met aussi sa propre fragilité, son propre endroit de rupture, justement. Du coup, je suis assez content que vous me disiez ça. C'est un pari réussi. En tout cas, c'est vrai que je...
Mais au sens des petites fictions, vous voulez dire, par exemple, ouais. Moi, c'est aussi, j'ose pas prononcer le mot depuis le début, mais en fait, j'ai aussi pensé à des romans photos. Quand je dis les petites fictions, c'est vraiment aussi de cet ordre-là, des histoires sentimentales, comme on peut les construire à partir d'images kitsch. C'est pas du tout l'esthétique de votre travail, je le précise pour les auditrices, les auditeurs, mais néanmoins, j'ai un peu été vers ça.
C'est non, mais c'est peut-être la clarté des situations qui est l'aspect photogénique des choses qui vous amène au roman photo. Bon, j'aurais préféré que ça vous amène à la gravure encyclopédique ou
mais ça veut pas dire que ça m'en éloigne. Ça veut pas dire que ça m'en éloigne.
Et le roman photo en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument charmant. Donc ça me va en fait. Non, ça me va plutôt bien.
Non, parce que non, mais pour en plus, dire l'attention, c'est que évidemment je vais là, mais par exemple devant une pièce comme Massacre, qui est une sorte d'aquarium avec un tas empilé de masques, qu'on imagine des masques de cultures africaines, subsahariennes, j'ai aussi été ramenée très violemment dans une installation du musée juif à Berlin et une figuration de la Shoah par des masques en acier qu'on piétine. Donc j'étais pas que du côté du roman photo.
Ouais,
c'est pour dire que les histoires, elles sont à la fois les histoires sentimentales, mais aussi des histoires qui touchent à l'humanité de manière gravissime et désastreuse. Voilà, vous êtes bien embêté maintenant pour rebondir.
Ah ouais, bien embêté. Non, en plus, je me sens pas si mal avec cette idée de
grand écart.
De roman photo, déjà. Maintenant que je l'ai... maintenant que je l'ai accepté, c'est... Non, c'est...
Peut-être pourquoi vous vous sentez pas si mal avec cette idée de roman photo?
Parce que il y a aussi l'idée d'un déroulé et d'un film qui commence, qu'on prend et d'images arrêtées beaucoup. Donc, je pense que le travail du roman photo, c'est ça, c'est de venir vraiment de capter des moments qui deviennent presque des pictogrammes d'une action. Et c'est quelque chose que je fais très scénarisé. Et
je sais pas comment ça s'appelle les dessins qu'on fait avant. Voilà, exactement.
Ouais. Et la situation doit être très claire dans l'image. Et c'est vrai que moi, je dessine mes pièces aussi vraiment de cette manière-là aussi. Il y a une clarté à un certain endroit. Et souvent une matière plus obscure qui les habite. Mais tout à l'heure on parlait de silhouette et de contour des choses. Et le roman photo
N'est que ça.
N'est que ça.
Je dis ça alors que j'ai évidemment jamais beaucoup lu de romans photo, mais...
Menteuse.
On a assez peu parlé de l'animal de compagnie, finalement, alors que c'est aussi l'un des imaginaires avec lequel vous jouez, Théo Mercier. Il a quoi comme place, justement, ce chien au bout de la laisse, ce chat dans une laitière, ou même ce serpent dans l'aquarium, dans le vivarium?
Il a la place de nous avoir donné sa place, un peu de il a un peu la place de l'absent au final. Il y a tous les objets qu'on a créés pour le raconter, mais l'animal est absent et on se retrouve du coup face à nos propres fantasmes qu'on a plaqués sur ces créatures. Et en fait, mon travail pour cette exposition était véritablement celui-là de raconter un peu l'animal transfert par le biais de tous ces objets et comment en fait notre rapport à l'animal, domestique, l'animal de compagnie, raconte notre manière de dominer le monde en fait et de venir plaquer sur tout nos désirs de surveiller, de punir, de nourrir, de protéger, de caresser, mais d'être là au monde, quoi, toujours. Et la question aussi d'infantiliser le monde pour le rendre à notre portée, d'infantiliser le sauvage. Et domestiquer, c'est ça, c'est infantiliser le sauvage pour le maîtriser, quoi, pour le... Et ces parallèles, tous ces parallèles aussi animaux-enfants, en fait, ils sont très forts. Quand je présente cet ensemble de petits habitats et jeux pour hamsters, on se croirait dans le parc au Square du Temple à côté, où il y a les mêmes petites balançoires. Enfin, c'est juste des questions d'échelle.
Il existe d'ailleurs des roues de hamsters pour les enfants dans certains parcs.
Quelle horreur.
C'est vrai.
C'est vrai.
Je cours dedans.
Ouais. Non, mais
le seul moment où l'animal, je vous coupe Théo Mercier, mais le seul moment où l'animal apparaît vraiment dans sa représentation habituelle, il est dépecé. C'est un cheval. C'est vraiment une vision d'horreur parce que c'est un cheval. Comment on pourrait dire, c'est ça, dépecé,
écorché.
Quoi, écorché, totalement ouais. Écorché. C'est vraiment un cheval de l'enfer. C'est une œuvre qui est assez dissonante par rapport au reste et qui en même temps évidemment dialogue avec tout ce qu'on a pu voir. De quelle manière, selon vous, cette œuvre dialogue avec le reste?
C'est une œuvre un peu transitoire aussi, qui est une œuvre de 2012, qui est plus du côté dont je parlais précédemment, de mon rapport à la rareté, à l'extraordinaire, au manque du monde. Le monde manquait de ce cheval monstrueux. Quand on le voit, on comprend pourquoi. C'est une pièce qui est une pièce d'accueil aussi. C'est celle qui va nous accueillir dans ce parcours, dans le haut du musée.
Étages, ouais.
Donc c'est un accueil assez glaçant, assez morbide. Cette pièce, elle dialogue vraiment avec le musée. Elle se fond dans le tableau qui est derrière lui. Derrière elle, qui est une grande scène de chasse très violente avec des sangliers blessés, qui est une pièce très 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 dynamique. Et elle devient du coup en le premier plan. Donc elle vient participer à la composition du tableau. Elle se fond aussi dans la tapisserie du musée qui est rougeant comme ça. Il y a une lumière très sombre dessus. Donc d'un seul coup, elle fait de cette première salle, un tableau vivant, enfin plutôt un tableau mort-vivant. Et d'un seul coup aussi, le musée devient, je le dis, le musée va être mon décor, le décor pour mes sculptures. Et cette sculpture est le personnage, et le musée derrière devient le décor.
Il y a art quand l'artiste est inspiré d'en haut et que ce qu'il fait est pour un but utile en bas. Quand il n'y a plus ces deux pôles, ciel et terre, nous avons la technique qui ravage le monde aujourd'hui, parce qu'elle n'est plus tenue, je répète encore, par un point céleste en haut, et qu'elle ne va pas à une adresse terrestre en bas. Je répète encore, par un point céleste en haut, et qu'elle ne va pas à une adresse terrestre en bas.
Sourire Théo Mercier, parce que bon, on nous a soufflé à l'oreille que c'était une chanson que vous aimiez tant. Et moi je note à l'instant qu'il y a les larmes aussi dans cette chanson-là de Bobby Bachot, Blue Crystal. Juste avant c'était la voix de Philippe Lavastine, conférencier de génie, on nous a dit. Mais qui notait que la production artistique dans une ère technologique peut-être nous demandait de réfléchir au pôle céleste et au pôle terrestre. Bref, les objets se tenaient dans cette tension-là. Et ça demande à ce qu'on se déplace encore d'un cran et qu'on envisage la qualité spirituelle de certains de vos objets, ou en tout cas la qualité, je sais pas, chamanique, qui fait que ils vont être des passages entre du très haut et du très bas. Qu'en pensez-vous?
Oui, bon, c'est très juste. Je suis très impressionné par le travail d'archives que
vous avez fait. J'en ai le hausse pour aujourd'hui.
Vraiment. C'est vrai que cette question de l'objet tendu entre les enfers et le cosmos parcourt plusieurs de mes sculptures. Et cette question de la permanente de la chute est d'ériger. Dans une exposition précédente, j'ai travaillé sur une série qui s'appelait Monuments Ordinaires et qui était le travail était celui d'ériger des monuments à la chute, d'une certaine manière. Et effectivement, cette question d'aller vers le ciel pour finir sous la terre me traverse en permanence dans mon travail de sculpteur, et en fait aussi celle de on parlait tout à l'heure d'horloge folle du temps et de machine à démonter le temps et de traverser les temps vient de la même préoccupation, celui d'être entre la terre et le ciel et entre le passé et l'avenir, et d'être comme ça, de proposer des objets, des situations qui seraient d'une certaine manière perdues dans l'espace et dans le temps, qui seraient suspendues, et de, en fait, cette question d'abscisse et d'ordonnée aussi, de la question du vertical et de l'horizontal, qui sont deux narrations qui racontent deux choses très différentes, mais qui ont la même dynamique.
Et deux façons d'organiser les objets dans l'exposition, voilà, que vous proposez.
Voilà.
On a vraiment dit, sol, tout était horizontal, et dès qu'on monte dans les étages, tout essaie de grimper, ou de chuter.
Voilà, cette tension entre les mondes, entre le monde de la gloire et le monde de la chute aussi, entre le monde du sublime et le monde de la casse et le monde du débris, en tout cas toutes ces dualités cosmiques m'intéressent.
Every Stone Should Cry, c'est visible jusqu'au 30 juin 2019 au Musée de la Chasse et de la Nature. Merci beaucoup Théo Mercier.
Merci beaucoup.
laisser tout tomber. On va embarquer pour un pays qui va vous enchanter, vous embéguiner. Laissez-vous tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, un spectacle permanent. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, y a des poissons tropicaux plein de piquants sur le dos.
À la prise de son ce soir, c'était Jean-Michel Bernaud. À la réalisation, Lise-Marie Barry. Un grand merci à Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre, Marianne Chassor et Valentin Rémy qui m'aident à penser et préparer cette émission. Tous les jours, dans un instant, c'est le journal sur France Culture et quand vous voulez, franceculture.fr pour les podcasts de Par les temps qui courent et toutes les références. À demain.
Comme dans les